Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être au rendez-vous de Nous n'avons qu'une terre. Alors, aujourd'hui, nous attaquons notre dernière émission avant les vacances. Alors, c'est un sujet un peu hors des radars et pourtant qui a une importance dans certaines régions du monde, le pastoralisme dont nous allons parler. Alors, deux invités sont avec nous. Alissa Géridi, qui travaille à l'ONG CARI.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis Jean-Daniel Cesaro, qui est chercheur au CIRAD.
Tout à fait, bonjour Dominique.
Bonjour. Alors, ils vont vous définir avec plus de précision ce qu'est le pastoralisme et surtout les différences qui existent un peu entre le pastoralisme de nos contrées et celui des zones plus ou moins désertiques comme la Mongolie ou le Sahel, où le pastoralisme a un rôle excessivement important. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème ? Eh bien, parce que l'an dernier, il y a eu le sommet de l'élevage en France qui a mis le doigt sur cette activité, le pastoralisme. Ensuite, parce qu'un débat est en cours au niveau national pour redonner du sens, justement, au pastoralisme. Et surtout, et enfin, parce qu'en août, en Mongolie, à Oulan-Bator, va se tenir une COP sur la désertification, la 17e. Et l'intérêt n'en est pas seulement environnemental. C'est probablement la première COP de l'ONU où la gestion des pâturages et le pastoralisme nomade risquent de devenir un sujet géopolitique majeur au croisement de la sécurité alimentaire, de l'eau, du climat et de la stabilité des territoires. Alors, dans un message qui a été consacré au pâturage, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rappelle qu'ils fournissent des denrées alimentaires comme le lait ou le fromage, des fibres essentielles, et surtout qu'ils font vivre plus de 2 milliards de personnes sur le plan environnemental. Ils constituent d'importants réservoirs de biodiversité et de carbone. Alors, retour vers nos deux invités. Alors, vous êtes tous les deux persuadés de l'importance du pastoralisme, puisque vous serez présents ou représentés à Oulan-Bator. Alors, Jean-Daniel Cesaro, vous allez y être, vous ?
Ah oui, tout à fait. On attend ça avec impatience. On s'y prépare depuis 2 ans maintenant, puisqu'on était déjà à la COP 16 à Riyad, où on était là-bas aussi pour préparer cette COP importante à Oulan-Bator.
Alors, c'était il y a 2 ans.
La COP de Riyad, c'était à peu près à 2 ans, en novembre 2024.
C'est ça. On n'est pas comme dans la COP climat, on n'en a pas une tous les ans.
Non, c'est pas voilà. Sur ce modèle-là. Et la COP à Riyad, elle était importante parce qu'il y a eu une décision sur les parcours et les éleveurs pastoraux, justement, de mieux prendre en compte cette forme d'élevage dans la restauration des terres et la gestion durable des parcours.
Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une espèce de continuité dans le sujet, quoi.
Tout à fait, oui, c'est une lame de fond sur laquelle on travaille depuis maintenant une décennie pour mettre en avant cette forme d'élevage.
Alors j'évoquais tout à l'heure qu'il y avait une différence entre le pastoralisme chez nous et le pastoralisme du Sud. Forcément, le pastoralisme chez nous, ça existe quand même.
Tout à fait. En France, on compte 30 000 exploitations, 20 000 bergers. On a de nombreux produits sur nos tables. On pourrait citer le roquefort, le pélardon, l'ousso irati, l'agneau de Sisteron. Donc, on a des indications géographiques protégées sur des produits qui sont issus du pastoralisme. En revanche, au Sahel, on va être sur des millions de ménages qui vivent de l'agriculture et de l'élevage pour subvenir à leurs besoins. Pour vivre,
ouais.
Et pour faire face aussi aux aléas climatiques qui sont nombreux.
Alors, peut-être qu'on oublie, le pastoralisme chez nous, il joue un rôle aussi dans les paysages, je crois, dans le maintien de nos paysages.
Tout à fait. Historiquement, on a par exemple vers chez nous les drails qui ont été les chemins de transhumance pour pouvoir remonter du Midi vers les montagnes. On a toute la relation entre l'olivier, la vigne et le pastoralisme. Ce sont des choses qui ont un peu disparu, mais que voilà, les pouvoirs publics et puis aussi les éleveurs qui sont sur le terrain essaient de remettre en avant, de pouvoir refaire pâturer leurs animaux. À la fois dans les forêts, sur les terres agricoles et sur les pâturages.
Parce qu'eux, ils n'ont pas disparu et il faut faire attention parce qu'on est juste au moment où ils pourraient disparaître.
C'est ça. On a identifié, en tout cas les Nations Unies ont identifié qu'au niveau mondial, il y a un risque pour l'élevage pastoral et les populations qui en vivent parce que les parcours disparaissent à grande vitesse face soit à l'extension des zones agricoles, soit par le changement climatique, par la dégradation en fait, du climat.
Alors justement, Alice, vous travaillez directement au sein de CARI sur ce problème, c'est-à-dire il y a aujourd'hui des menaces qui ont été vraiment bien identifiées et qui font que c'est pas seulement, comme on vient de l'évoquer, les pasteurs et leurs animaux qui sont menacés, mais c'est carrément la terre.
Oui, tout à fait. On a un gros problème qui est celui de la désertification, qui est un processus en fait de dégradation des sols et des écosystèmes. Et en fait, voilà, c'est devenu un enjeu environnemental majeur dans la mesure où 40% des terres émergées sont des zones dites sèches, donc qui sont voilà, les zones arides, semi-arides
donc,
et
moitié
semi-sèches.
De la terre du monde, moitié du monde, je dirais.
Voilà, quasiment, et qui abritent aussi près de 2 milliards de personnes, quand même. Et en fait, le problème de désertification est particulièrement fort dans ces zones-là, et du coup, ça engendre voilà, des problèmes comme baisse de la fertilité des sols ou augmentation de l'insécurité alimentaire, de la pauvreté, et aussi on a affaire à des migrations forcées aussi. Donc voilà, c'est un vrai problème, et tout ça aussi, c'est dû notamment aux activités humaines, donc tout ce qui est agriculture intensive, déforestation ou aussi mauvaise gestion de l'eau. Et aussi, on a aussi le changement climatique qui a tendance à exacerber aussi ce phénomène et qui aussi augmente les effets des événements extrêmes climatiques comme les sécheresses.
Alors, comme on l'a vu, on est aussi à un moment où il est temps de se réveiller parce que la désertification menace aujourd'hui beaucoup de terres.
Tout à fait. Et aussi les terres de parcours, justement. Et les terres de parcours représentent quand même 54% des terres du globe. Et malgré ça, donc là, pour le coup, elles représentent plus de la moitié des terres du globe. Et malgré ça, ça reste des terres qui sont très peu protégées et qui sont extrêmement menacées.
Alors effectivement, pour la Mongolie, on a à peu près 77% du territoire qui est considéré comme dégradé. C'est oui. Beaucoup. Oui. Et la COP17 est une façon de placer ces zones sèches au centre de l'agenda international. Alors la première question qui va être abordée sera, bien sûr, comme vous venez de l'évoquer, celle des parcours. Hein, mmh. Je vais revenir un peu vers vous, Jean-Daniel. Vous êtes géographe, hein, donc vous avez forcément travaillé sur cette cartographie hein, des parcours. Historiquement, c'est quelque chose qui existe depuis l'ère des temps, hein, les parcours.
Tout à fait. Ce sont des écosystèmes qui ont coévolué avec les éleveurs. Donc ce sont des écosystèmes qui sont à la fois naturels, mais qui par le fait qu'ils soient pâturés par des animaux, que ce soit des animaux sauvages, on peut parler du bison, de la grande faune en Afrique de l'Est, ou que par de l'élevage domestique, il y a une coévolution par les espèces herbacées, les arbustes. Donc effectivement, ce sont des écosystèmes très anciens, mais qui existent parce que l'humain les utilise.
Très bien. Et alors, donc, on vient de voir... on sait, parce que on le dit toujours, c'est un peu trop facile, c'est les pasteurs, finalement, qui sont rendus responsables de cette désertification, de cet abîme, du fait que les sols soient abîmés. Très souvent, quand on se trouve en Afrique sahélienne, on entend les agriculteurs se plaindre, dire c'est les pasteurs, ils font n'importe quoi, avec leurs troupeaux, ils passent et puis les troupeaux mangent, etc. Or, on voit apparaître de nombreux conflits d'usage, finalement, entre les agriculteurs et les pasteurs sur ces zones.
Alors, ce triptyque, si vous voulez, entre surpâturage, désertification et conflit, c'est un peu dans le monde de la fabrique des idées, un enchaînement d'idées qui existe depuis très longtemps. Ça a été développé déjà dans la période coloniale, ça a été repris au niveau des indépendances par les grandes organisations internationales, ça a été particulièrement appuyé dans la période des grandes sécheresses, notamment en Afrique subsaharienne des années 60, 70, 80. Et c'était aussi parce qu'il fallait bien trouver un coupable. Mais aujourd'hui, on en revient quand même avec les évidences scientifiques, c'est-à-dire que les animaux arrivent à décomposer les matières rapidement, ils ont un rôle très important dans la fertilité des sols. Un éleveur au Tchad de dromadaire nous disait que c'était ces animaux qui plantaient les arbres, parce qu'avec la zoochorie, le fait que les animaux puissent distribuer les semences à travers les territoires, en fait, ils ont un rôle écologique très important. Et donc là où on voit, où on dit on met fin au pastoralisme et on fait de la stabulation pour intensifier, en fait, on a une dégradation des terres, et puis on a aussi une charge de travail pour les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent déplacer le fumier jusque dans leurs champs. Et on a des communautés qui font tout pour maintenir des pâturages dans leur terroir, avec leurs activités agricoles, non pas pour leurs animaux, mais pour accueillir des transhumants. Parce qu'ils considèrent que c'est important d'avoir cette solidarité entre communautés, et donc maintiennent des pâturages pour pouvoir attirer des transhumants chez eux et avoir la fertilité de leurs animaux.
Alors, Alissa, forcément, ça a créé des conflits, on l'a vu, hein, entre les agriculteurs et les éleveurs, puisqu'il faut savoir... mais au départ, il y a le problème du foncier, c'est-à-dire que on est dans des zones où il n'y a pas de propriété foncière. Donc, ce droit à la terre va très certainement jouer un rôle extrêmement important à Ulaanbaatar. Donc, vous y avez réfléchi, hein, qu'est-ce qu'il faudrait faire et où on en est, enfin, est-ce que c'est la solution européenne avec la propriété privé qui doit se mettre en place, ou bien est-ce qu'on doit trouver dans l'histoire des biens communs quelque chose,
hein? Oui, alors je reviendrai sur quelques points concernant les problèmes fonciers. C'est que les problèmes majeurs, c'est que déjà il y a un vrai manque de reconnaissance des terres de parcours qui sont utilisées par les éleveurs pastoraux, ce qui entrave aussi la mobilité, qui est un élément essentiel du pastoralisme. Et souvent, la restriction de ces droits aussi des éleveurs est liée notamment à l'urbanisation, à l'agriculture sédentaire et à des projets de développement, tout ce qui est mines et barrages, etc. Ensuite, le deuxième problème, c'est le problème de la conversion des terres, où les terres de parcours sont du coup converties à d'autres usages.
Oui, mais ma question, c'était même au-delà de ça. C'est-à-dire, on se trouve dans des pays où la propriété foncière n'existe pas.
Oui, mais il y a la question des droits coutumiers, en fait. Il y a un enjeu, en fait, à ce que les politiques publiques reconnaissent ces droits coutumiers. Et ces droits coutumiers, qui, je le rappelle, sont des systèmes juridiques qui reposent sur, en fait, un ensemble de coutumes, d'usages et de croyances et de traditions, tout à fait. Et donc, en ce sens, ce serait un levier efficace pour pouvoir créer des politiques publiques déjà qui respectent en fait le mode de vie pastoral, qui respectent la mobilité pastorale et tout ce qui est gestion durable des parcours, etc.
Et vous croyez réellement qu'il suffirait simplement de reconnaître que qu'ils ont le droit de se promener, enfin de pâturer, ce serait suffisant pour gérer le problème des conflits fonciers?
Alors, pas forcément. Il y a aussi tout un travail à faire au niveau local. Il y a aussi, voilà, mettre en place des cadres de concertation locale qui permettent de mettre en dialogue les différents usagers des terres, en fait. Donc, ce qui va permettre qu'ils exposent leurs problématiques, leurs besoins, etc. Et là, il y a un exemple qui est assez intéressant. C'est l'exemple, par exemple, des conventions locales, qui est un outil de gestion locale des ressources naturelles qui est beaucoup utilisé en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Et en fait, ça permet d'avoir des sortes de contrats négociés entre les acteurs locaux. Et du coup, ces accords fixent des règles, fixent les droits et les devoirs de chacun dans l'utilisation et la gestion en fait, des espaces locaux et des ressources naturelles.
Donc, bon, alors là Daniel, Jean-Daniel, on est plutôt dans, en termes de gouvernance. Hein. On s'adresse, finalement, c'est les États qui octroient ou non des droits et reconnaissent ou non une classe sociale, en l'occurrence les pasteurs, et etc., etc. Mais est-ce que il y a aussi quelque chose qui, et là je m'adresse aux géographes, c'est-à-dire est-ce que au-delà de la gouvernance, la science peut apporter quelque chose et doit-elle s'imposer ou est-ce que c'est la gouvernance qui doit s'imposer? Enfin, on est toujours dans le même débat actuellement sur plein de questions.
Alors. Je dirais que nous, notre point de vue, d'abord, il est de travailler avec les organisations locales. Donc on a des organisations de producteurs, on parle souvent d'organisations pastorales, qui sont là pour défendre les droits des pasteurs à la mobilité, à l'usage des terres, parce qu'il y a des complémentarités, on parle de multifonctionnalité des espaces, c'est-à-dire qu'un champ peut devenir un pâturage, il y a la veine pâture, il y a les résidus de récolte, les forêts peuvent être aussi pâturées sous
donc
forêt.
Donc ça se décide finalement collectivement. Quoi.
C'est le bon usage.
C'est ce que définissait Alissa, c'est le bon usage. C'est que quand on est d'accord, ça se passe bien.
On essaye de se mettre d'accord, mais aussi on essaye de démontrer que il y a des valeurs économiques, sociales, écologiques, culturelles qui sont associées au pastoralisme. Là, cette année de l'année internationale des parcours des pasteurs, on va mettre, on parle du triptyque reconnaître, respecter et restaurer. Donc reconnaître la valeur économique, sociale, écologique, j'en ai parlé, donc ça c'est pour les politiques publiques notamment, parce qu'il faut les convaincre d'aller investir, de sécuriser du foncier. Il y a aussi la question du respect des peuples, parce que ces populations qui sont nomades, mobiles, elles n'ont pas forcément accès à leurs droits d'un point de vue juridique, d'un point de vue
Alors,
civique.
Vous évoquiez, et je pense que c'est le moment d'en parler, une montée en puissance au sein justement des organisations internationales, des peuples non inscrits, enfin ce qu'on appelle les peuples non inscrits ou ce qu'on appelle les gens, enfin les tribus, les peuples autochtones, enfin les collectifs, hein, on leur donne plusieurs noms. Et donc, finalement, ils sont pas tout à fait en accord avec l'État.
C'est ça. Et c'est tout l'intérêt aussi des conventions internationales, parce que les conventions internationales leur donnent un espace de dialogue depuis le sommet de la Terre de 92, un espace de prise de parole face aux partis, qui sont les États, pour pouvoir à chaque fois avoir sur chaque décision une position qui soit la position des de ce qui s'appelait les organisations de la société civile. Et aujourd'hui, on va avoir pour la première fois à Ulaanbaatar les discours aussi de ce qu'on appelle les indigenous people, les peuples autochtones, qui ont une représentation et justement sur ces questions pastorales, et ils sont vraiment en pointe.
Alors, est-ce que on peut en citer quelques-uns, soit au Sahel, soit qu'est-ce que c'est ces peuples?
Il y a une diversité de populations. On a une carte mondiale.
Ce sont des tribus.
Franchement, ça a plein de formes, parce que sur la carte mondiale, il y a aussi des groupes français. On parle des gens du Massif central, on parle des gens des Alpes. Il y a évidemment les Peuls qui sont très connus au Sahel.
Donc là, c'est régional.
Voilà. Après, il y a des existences régionales. Et donc, en fonction de leur enjeu politique, ils s'organisent pour être dans ces instances internationales, pour porter la voix des communautés en fonction des conflits qu'ils ont ou non avec les États.
Alors, l'un ou l'autre, vous n'avez pas répondu, on avait une espèce de bien commun, et est-ce qu'on va vers une privatisation de ces biens communs, comme nous, on le vit chez nous?
Alors, c'est extrêmement compliqué de balayer la planète d'une seule formule. Bon, il y a une prise de conscience de l'importance de ces communs On estime pour les parcours, en tout cas, que 40% de ces parcours sont en régime commun. Donc ça veut dire que, en fait, il y a un droit d'État sur ces terres, mais que on reconnaît les droits, enfin les droits coutumiers prévaut. Et donc c'est important de montrer qu'il continue d'exister ces systèmes-là, puisque les États des fois aussi, juste regardent la réalité du terrain et supportent un peu leur population dans leur mode d'organisation.
Mais je suppose que c'est ça qui va être difficile, c'est ça qui va être sans doute très difficile de défendre à Oulan-Bator.
Je sais pas en fait, est-ce que ça va être ce point-là en particulier qui va être posé? Il peut y avoir d'autres points, on va dire, qui peuvent poser problème. La première question, c'est la mobilité. La deuxième question, c'est la relation entre les pasteurs et les aires protégées. Puisque dans beaucoup d'endroits, il y a des conflits qui apparaissent entre les rangers, les objectifs de conservation et les objectifs de production. Et ensuite,
Mais là, on est en plein conflit de bien commun.
On est en plein conflit de bien commun, et nous, notre objectif, dans plein de projets qu'on développe, notamment avec le Front français pour l'environnement mondial, c'est de trouver des compromis. De trouver des compromis entre les pasteurs et les rangers, et puis aussi de trouver des compensations, c'est-à-dire comment on fait pour que les populations acceptent, mais même soient fassent la promotion de modèles de conservation en même temps, parce qu'il faut, on a par exemple au Sénégal des réserves sylvopastorales qui existent depuis les années 60, et ces réserves sylvopastorales, si le pastoralisme existe encore de cette manière au Sénégal, c'est parce que ces réserves existent, et donc il y a une relation un peu fusionnelle entre les eaux et forêts et les pasteurs, compliqué dans un couple qui a de nombreuses années, mais où les gens se parlent et il faut travailler ensemble pour faire que ces modèles d'élevage continuent.
Alors très bien, dans les trois R, vous avez évoqué reconnaître, respecter. Alors Alissa, restaurer. Il nous reste restaurer. Est-ce que aujourd'hui on a un peu des solutions pour aider à finalement, parce que finalement, si on sait restaurer, on pourra garder les éleveurs. Donc, quel type de solutions nous sont proposées pour la restauration?
Pour la restauration des terres, ou plutôt peut-être employer aussi le terme de réhabilitation, peut-être, parce que le terme de restauration impose de revenir à un état initial. Qui est très complexe, donc plutôt réhabiliter. En fait, ce qu'il faut pour rester dans le cadre des terres de parcours, c'est vraiment respecter en fin de compte la mobilité pastorale qui va permettre justement de gérer les différentes ressources naturelles qui sont, hétérogènes, vu qu'elles ne sont pas exposées à un seul endroit, et qui vont permettre aussi de respecter aussi un écosystème qui fonctionne.
Alors c'est un petit peu ce que Jean-Daniel avait évoqué quand il avait parlé notamment de l'usage, des engrais naturels, etc.
Du piétinement.
Mais aujourd'hui, par exemple, il y a certaines régions qui sont complètement transformées en glacis sur les parcours de troupeaux. Alors, le glacis, c'est-à-dire, c'est une espèce... le mot dit bien ce qu'il veut dire. Il y a une espèce de couche qui empêche, finalement, la terre de respirer, c'est-à-dire comme si on avait un miroir dessus. Allez, on va dire ça. C'est pas très scientifique, mon débat. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore par rapport à ça? Alors, l'un ou l'autre.
Par rapport à ces situations où le sol s'imperméabilise, bon, il y a des techniques qui sont agricoles ou forestières. On parle du ZAI, qui est une technique très connue en Afrique de l'Ouest.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire,
moi, je ne connais pas.
Il faut avoir un peu de force et une pioche, et on fait des petits trous pour que l'eau s'infiltre plus facilement dans le sol, ce qui permet de faire revenir les graines. Après, on peut l'associer avec la culture, donc c'est une pratique dans la palette de l'agroécologie. Et puis on a aussi d'autres technologies qui sont par exemple le parquage nocturne, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de concentrer un maximum d'animaux, une centaine de vaches par exemple, en un point précis, et donc du coup elles vont retourner la terre, et ça on paye les éleveurs, les États ou les communautés locales payent les éleveurs pour services rendus, parce que c'est un coût de maintenir des animaux pendant la nuit, parce qu'ils vont fertiliser, ils vont retourner le sol, et donc ils sont rétribués en aliments par exemple pour le travail qu'ils ont réalisé.
Alors, moi, j'ai tout de suite passé à la question suivante avec vous. Après, si les pasteurs, effectivement, se promènent, ils se promènent à travers des grands espaces déserts. Il n'y a pas de population. Donc, je suppose qu'il faut faire quelque chose pour organiser le lait, la viande, etc. Ça fait un peu partie de vos responsabilités.
Oui, alors donc du coup sur des grands espaces où il y a personne, il faut un peu lutter. Donc il y a quelque temps, j'étais en Mongolie à faire des cartes participatives avec des éleveurs et pas un centimètre carré de leur territoire n'était pas utilisé. C'est juste qu'ils se déplacent. Donc ce qu'on voit comme vide à un moment ne l'est pas forcément à un autre. Et effectivement, ce sont des grandes régions où les éleveurs essaient de commercialiser leurs produits parce que l'objectif c'est quand même de vivre de l'élevage. Et voilà, il y a effectivement l'éloignement au marché est une difficulté, donc il faut amener à la fois des services, il faut que des investisseurs s'intéressent à ces formes d'élevage puisqu'ils ont des produits de qualité, notamment le lait, les fromages, mais aussi les viandes. Et donc on travaille avec des organisations étatiques ou régionales sur la création de marchés.
Mais c'est là aussi qu'interviennent, je suppose, les infrastructures, l'électricité, le froid, etc. Parce qu'il ne suffit pas de mettre d'accord des gens ensemble.
Voilà. Et l'objectif aussi, c'est de faire attention, parce que ce sont des espaces qui sont fragiles, donc de bien réfléchir les investissements. C'est-à-dire que si on fait un puits, on sait qu'il va y avoir des concentrations animales. Si on crée une laiterie, on sait qu'il y a du lait qui va partir vers les marchés. Et donc, il y a des enjeux aussi de sécurité alimentaire qui sont derrière. Et donc, on n'est pas simplement à essayer à tout va de mettre des infrastructures en plein milieu de la zone pastorale, peut-être sur les bords, peut-être de travailler sur les synergies, sur la mobilité, que la production est à un endroit pendant l'année et puis à un autre. Et donc il faut mailler le territoire de services pour ces éleveurs pastoraux, pour qu'ils puissent accéder au marché et qu'ils puissent vendre leurs produits à de bons prix.
Alors l'une et l'autre, vous avez tous les deux évoqué le fait que les troupeaux devaient rester mobiles. Donc Alissa, vous êtes vraiment, c'est un point fondamental sur lequel vous allez intervenir. Enfin, sur lesquels il faut se battre.
Oui. C'est quelque chose qui est inhérent aussi bien à la pratique économique qu'au mode de vie pastoral et qui doit être respecté et qui est essentiel pour, encore une fois, vivre dans des environnements où il y a de fortes variabilités climatiques et où on a besoin de se déplacer pour avoir accès aux ressources.
Alors, vous évoquiez le fait qu'il y a des zones dans le monde où cette question, finalement, là, Alissa vient de nous donner une réponse qui était une réponse environnementale et qui était une réponse en relation avec le réel, alors que dans certaines régions du monde, on a eu des gestions qui ont été d'ordre économique, idéologique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a, par exemple, vous évoquiez qu'en Mongolie, on avait échappé à une sédentarisation planifiée, comme dans certains pays. Aujourd'hui, j'ai vu que le problème allait se reposer à Oulan-Bator, c'est-à-dire qu'on a deux pays qui sont voisins et qui ont deux positions très différentes. La Chine, qui a envie de fixer ses troupeaux, et la Mongolie qui a envie au contraire de les laisser libres.
Oui, voilà, ce sont là, tout à fait. Là, la Mongolie et la Chine sont deux pays qui ont des histoires très différentes parce que l'un était associé plutôt au bloc de l'URSS, donc avec la relation avec la Russie, et la Chine était plus indépendante. La Mongolie, dans le bloc soviétique, a effectivement une histoire d'une hybridation entre le modèle des Kovkhoz dans des coopératives soviétiques.
Où là,
il y avait une sédentarisation, comme au Kazakhstan, comme en Ouzbékistan, où ça a été vraiment très dur pour les populations nomades. Et en Mongolie, il y a eu cette hybridation où le modèle de coopérative donnait la part belle à la mobilité, à la gestion du pâturage, à amener justement des services. Et c'est vrai que en regard à la Mongolie intérieure ou ce qui se passe en Chine, dans la partie désertique, on a cette image de la sédentarisation des troupeaux. Après, ça, c'est une image qui est véhiculée par les pouvoirs chinois, mais dans la réalité, souvent, quand on va sur le terrain, en fait, il y a toujours des pasteurs, il y a toujours des gens qui sont mobiles. C'est juste qu'on peut avoir l'impression de les cacher. Et donc, l'objectif aussi, à travers cette COP qui se trouve en Mongolie, c'est de donner la parole à la fois les parties, mais aussi aux organisations de la société civile, et donc de pouvoir montrer que des gens existent et continuent de faire ces pratiques.
Donc vous êtes en train de me dire là que il y a en Chine une société civile qui n'est pas forcément d'accord avec cette planification très dure.
Alors je ne sais pas si elle va avoir le droit en Mongolie de s'exprimer, mais dans la réalité, que ce soit dans plein de pays où on a des régimes qui veulent montrer une image à l'extérieur du développement de leur pays, quand on regarde à l'intérieur, il reste des communautés qui vivent soit de manière traditionnelle, soit avec cette mobilité.
Alors, animale. Malheureusement, on arrive au bout de notre émission, comme d'habitude. Et bien sûr, toute la question financière reste en cours de discussion. Ça va être forcément un des enjeux extrêmement importants. Alors, on sait que, bien sûr, les pasteurs comptent sur cette reconnaissance pour pour pouvoir continuer à vivre tout bêtement de leurs produits. On sait aussi que les États ont besoin d'argent pour pouvoir remettre en place. Alors, on a évoqué quelque chose dont on n'a pas encore parlé, nous, mais finalement, il y a des fibres aussi. On a beaucoup parlé du lait, on a parlé de la viande, des fromages, etc. Mais il y a aussi l'alpaga et le cachemire. Et notre industrie du luxe française, par exemple, est assez intéressée par ces débats. Est-ce qu'on pourrait trouver des sources de financement ? Comment ça pourrait se passer ?
Je pense qu'il va falloir... Il y a deux questions. Il y a d'abord l'aide publique au développement. Je pense qu'Alissa pourrait en parler. Moi, je vais parler plutôt sur la question des fibres. Donc effectivement, aujourd'hui, on a le marché du luxe qui s'intéresse aux produits pastoraux. On a des agronomes et vétérinaires sans frontières, une ONG qui est très implantée en Mongolie, développe des certifications durables, donc essaye de mettre en place des planifications territoriales avec les éleveurs pour justement protéger la ressource et en même temps produire, vendre du cachemire certifié. Donc ça, ce sont des modèles qui sont intéressants. Mais plus généralement, c'est vrai qu'il y a une question sur comment on va financer la question de la restauration à la COP.
Alors, malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de temps d'en parler. De toute façon, c'est notre dernière émission avant l'été. Donc, je souhaite bien sûr à tous nos auditeurs d'abord des bonnes vacances. Et puis ensuite, on se retrouve avec des news à notre premier rendez-vous en septembre. Et donc, au cours de ces news, bien sûr, on fera un compte-rendu des conséquences, de ce qui a été décidé à Oulan-Bator. Et donc, on pourra reparler, bien sûr, de l'aide publique au développement. Alissa, ce n'est pas quelque chose qui est enterré. Voilà. Je vous dis au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.